Dans votre propos, vous n'avez pas évoqué la formation des enseignants. Est-ce que vous pourriez, je sais que lors des deux journées, ça a été un point crucial qui a été abordé, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment vous envisagez par rapport à ce point qui paraît incontournable dans notre système éducatif?
Alors, la formation des enseignants, elle est bien évidemment essentielle. Mais je ne suis pas persuadé que, à l'heure actuelle, elle soit à même d'armer les acteurs de l'école. Parce que ce qui est quand même frappant, si vous voulez, c'est que lorsqu'on analyse les principes de la pédagogie inclusive, ils ont été conceptualisés il y a 30 ans. On sait ce qu'il faut faire. Mais la difficulté, c'est que ça ne se met pas en œuvre. Les enseignants français sont parmi les moins nombreux à accéder à une formation continue. Par rapport au pays de l'OCDE, on se rend compte que c'est également ceux qui sont moins enclins que la moyenne des pays de l'OCDE à diversifier leurs pratiques pédagogiques. On se rend compte aussi que les chefs d'établissement sont parmi les plus nombreux à juger que la pédagogie inclusive a du mal à se mettre en place, enfin l'ambition inclusive a du mal à se concrétiser par manque de formation. Donc la formation est quelque chose d'important, mais qui, à mon avis, a du mal à se concrétiser dans les faits. Et me semble-t-il, si elle a du mal à se concrétiser dans les faits, c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'une des raisons, me semble-t-il, est que la pratique inclusive se concrétise au regard de logiques organisationnelles, on ne peut pas résumer la formation exclusivement à quelque chose qui est de l'ordre du méta, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et qu'il y a peut-être un enjeu à penser quelque chose qui est de l'ordre de la formation au regard de contextes organisationnels permettant aux membres de l'établissement de trouver des éléments de réponse à des questions qui peuvent se poser au regard de contextes concrets. Il y a plus de chances d'avoir d'élèves allophones que d'élèves présentant une déficience, par exemple. Mais on ne peut pas former un enseignant à tous les types de déficiences. L'enjeu, c'est effectivement que l'enseignant, par le biais d'actions de formation, puisse trouver des éléments de réponse au regard d'un certain nombre de contingences. Donc je pense qu'un des enjeux, me semble-t-il, est de voir comment on peut articuler la formation au regard de contingences macro et puis de contingences ou d'éléments plus micro. Une autre dimension, me semble-t-il, est importante quand on parle de formation, c'est la prise en compte de l'effet capacitant. En quoi les enseignants sont-ils à même de faire ce qu'ils sont censés faire? J'ai mené dans un pays une petite enquête là-dessus. On avait pris 5 dimensions, la formation initiale, la formation continue, la politique d'établissement, l'appréhension des besoins, et puis les manières les formes de soutien au chef d'établissement. Il n'y a que 18% des enseignants, premier degré et second degré, qui s'estimaient à même, par suite à la formation initiale, de diversifier les profils, de prendre en compte la diversité des profils pédagogiques. La proportion était de 25% à propos de la formation continue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, peut-être ne s'interroge-t-on pas suffisamment sur Oui, ce que j'appelle l'effet capacitant de la formation. Et sur la possibilité donnée aux enseignants de faire ce qu'ils sont censés faire. Parce que s'interroger sur l'effet capacitant, c'est aussi s'interroger sur les manières dont on peut améliorer la formation, dont on peut penser quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique collective. Autre dimension, me semble-t-il, qui me semble importante, c'est qu'on méconnaît souvent, lorsqu'on bâtit une offre de formation, toutes les dimensions constitutives de ce que j'appelle, avec à la suite de Norbert Alter, l'innovation ordinaire. C'est-à-dire qu'au quotidien, il y a un ensemble de compétences mobilisées par les acteurs pour faire en sorte que les choses se font. Et ces compétences, à l'heure actuelle, me semble-t-il, relèvent plus de ce que Foucault appelle des savoirs assujettis, c'est-à-dire des savoirs que l'on ne veut pas reconnaître en tant que tels. De telle manière qu'on a du mal à capitaliser en termes de formation l'ensemble ou les initiatives prises au quotidien par les enseignants, par les chefs d'établissement, etc., par les inspecteurs d'académie ou les IUNASH, etc., pour penser la formation de manière assez dynamique. Bon, par exemple, là, on a réformé les CAPASH et les 2CASH. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'analyse menée à l'échelon national sur la manière dont les enseignants se sentaient à même de faire ce qu'ils étaient censés faire. Et une analyse relativement précise, ou tant soit peu précise, de la manière dont les enseignants, concrétisaient la différenciation pédagogique, la pédagogie collaborative, etc. Ce qui revient à dire qu'effectivement, on est dans une logique où certains nombres de principes vont être injectés dans la formation, sans pour autant que ces principes fassent sens dans un contexte professionnel.
Bien. Je vous remercie pour tous ces éléments parce que c'est vraiment des axes que nous allons développer à différents moments. On pourrait reprendre vos paroles sur des temps que nous rencontrerons dans ces deux jours de formation. Hein ? Notamment de reprendre à partir de ce que dit Françoise Lantôme, sociologue, mieux soutenir l'existant plutôt que prescrire l'idéal.
Mais je crois qu'il y a une chose aussi, il y a une ambiguïté, et qui peut être liée à la notion d'inclusion scolaire. Et c'est que quand on parle d'inclusion, on parle toujours du soutien aux élèves. Or, ce que j'ai pu observer, c'est que dans les pays comme le New Brunswick au Canada, ou la Norvège, hein, les pays où effectivement l'éducation inclusive s'est institutionnalisée, cette ambition inclusive s'est concrétisée par une double forme de soutien, soutien aux élèves, mais aussi soutien aux acteurs de l'école. Un soutien aux acteurs de l'école et un soutien concret. Pour éviter que les enseignants ne soient face à une injonction paradoxale. Ou un ensemble d'injonctions paradoxales. injonction paradoxale qui risque de le désarmer, de désarmer les acteurs de l'école, et de n'avoir qu'une envie, c'est de ne pas être confronté à la diversité des profils éducatifs. Alors même que la mission de l'enseignant est, me semble avoir été singulièrement reconfigurée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans un certain nombre de pays, si vous voulez, il y a eu un désencastrement identitaire, ce que j'appelle un désencastrement identitaire, parce qu'effectivement, on ne pense plus l'enseignant au regard de dimensions pédagogiques, mais au regard d'autres dimensions, sans avoir fourni aux enseignants les manières, enfin les éléments leur permettant de penser une identité de métier. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on demande à l'enseignant de remettre en cause un certain nombre de routines, autour de quoi, autour de quel pôle de certitude peut-il se construire, penser d'autres routines ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'innovation puisse être permanente, et je ne pense pas que l'innovation puisse, hein, quand on parle d'adaptation, de changement permanent, continu, etc., on oublie que nous avons nous avons besoin de routine pour penser quelque chose qui est de l'ordre de la pratique et de l'identité. Et la question qui se pose, et c'est là également qu'intervient, me semble-t-il, quelque chose tant qui relève de la recherche que de la formation, c'est quelles sont les routines sur lesquels les enseignants peuvent s'appuyer pour penser quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation ordinaire. Et je pense que ce concept d'innovation ordinaire est assez intéressant, puisque ça revient à réfléchir à la manière dont les choses se font sans qu'elles soient forcément pensées, mais qui font que ça marche d'une certaine manière. Et à partir desquelles on peut penser quelque chose qui est de l'ordre du transfert, de la capitalisation et de la reconnaissance professionnelle aussi.
Vous parliez tout à l'heure de citoyenneté, en disant qu'effectivement un principe de l'inclusion, c'était qu'effectivement les personnes soient associées à ce qui leur arrive en fait. Donc voilà, moi ça m'a interpellée par rapport à notre public, qui est particulièrement dépendant, on va dire. Que ce soit les familles effectivement qui choisissent ça à l'heure actuelle pas beaucoup ni où elles vont habiter ni dans quelles conditions etc. Et effectivement les enfants je pense on est beaucoup effectivement à travailler avec des mineurs isolés, voilà, qui n'ont pas non plus dans des principes vraiment éclatants de citoyenneté etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui me pose vraiment question, et avec un public tout à fait particulier dans lequel je retrouve effectivement les principes de l'inclusion, c'est clair, mais aussi des choses aussi tout à fait particulières.
Alors, c'est vrai que l'implication, ça n'existe pas a priori, ça n'existe pas dans l'absolu. Ou la mobilisation des intéressés et de leurs familles. Et c'est là que... Il y a différentes dimensions. C'est là que la manière dont on pense quelque chose qui est de l'ordre du projet individualisé. C'est-à-dire, le projet individuel, il n'y a pas de projet individuel. Tout projet est collectif. Tout projet est collectif parce que tout projet suppose la mobilisation d'autres acteurs. Et ce qui me paraît intéressant dans cette perspective, notamment proposée par Boutinet dans son anthropologie du projet, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de projet, mais la notion de projet, c'est vieux. Hein. Et il y a un bouquin assez intéressant de Boutinet qui publie en 91, Anthropologie du projet, qui fait une belle typologie des projets. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans cette notion de projet, dans l'approche du projet que propose Boutinet, c'est que le projet... À l'heure actuelle, il est présenté comme un outil de conduite de changement, quasiment, quoi. On évalue, on définit des objectifs, etc. Alors que fondamentalement, il me paraît intéressant de le penser comme un rituel. Un rite de passage, d'une certaine manière, à travers lequel se pense quelque chose qui est de l'ordre de l'identité de l'élève, de l'identité de l'enseignant, de l'identité de parents. C'est-à-dire que À travers le projet, on peut penser quelque chose qui est de l'ordre du contexte scolaire autour desquels on va pouvoir penser la complémentarité des uns et des autres. Et je crois que ça, c'est une dimension qui est importante, mais qui est peut-être difficile aussi parce que quand on met l'enfant au centre, on peut pas le penser comme sujet, c'est-à-dire qu'on peut pas penser simultanément quelqu'un objet et sujet. Je veux dire, quand on demande de mettre la personne au centre, on est confronté à cette injonction paradoxale qui consiste à rechercher la participation de quelqu'un qui est objet. Et c'est pas simple, parce que penser simultanément une personne objet et sujet, nous conduit à méconnaître toutes les dimensions renvoyant à la question du sujet. L'autre dimension qui me paraît importante dans ce caractère rituel, c'est de prendre en considération le fait qu'il n'y a pas que l'enfant qui a des besoins. Hein, quand on parle d'élèves à besoins éducatifs particuliers, on incite à mettre l'accent sur les besoins, au détriment des besoins des autres acteurs, y compris des parents, mais y compris de l'élève, parce que ce qu'on analyse ou ce qu'on évalue à l'heure actuelle, c'est le besoin de service, c'est le besoin de soutien, un peu sur le mode compensatoire, ce qui fait que l'implication de l'élève et de la famille ne fait pas forcément sens. Hein, c'est-à-dire qu'on ne construit pas le sens de l'implication. Troisième dimension intervenant là-dedans, c'est que l'implication dans un certain nombre de pays, elle est travaillée par des actions de formation. C'est-à-dire que parallèlement aux enseignements disciplinaires traditionnels ou aux enseignements renvoyant à l'instruction, il y a un ensemble d'enseignements réalisés mettent l'accent sur quelque chose qui est de l'ordre d'une autre manière de penser le rôle d'élève. Et ça renvoie à la manière dont on pense l'établissement. Je veux dire, dans les pays où l'établissement est pensé comme une communauté éducative, que ce soit les pays scandinaves, les pays anglo ou les pays anglo-saxons, d'une certaine manière, si vous voulez, l'enseignement ne se réduit pas à l'instruction. Il y a un ensemble d'enseignements. Hein, par exemple, en Norvège, les établissements ont, par rapport au programme d'enseignement prévu, une marge de manœuvre de 5%. Pour du temps d'enseignement qui est délégué à quelque chose ou qui est dévolu à quelque chose qui est spécifique à l'établissement. Et selon le profil des élèves de l'école, ces enseignants peuvent porter sur quelque chose qui est de l'ordre soit de la citoyenneté, soit d'éléments renvoyant à quelque chose qui est de l'ordre de l'implication, etc. C'est vrai que la question de l'implication des familles se pose en des termes différents en France que dans d'autres pays. Je veux dire, dans d'autres pays, l'implication des familles est une composante à part entière du processus éducatif, alors qu'en France, la semaine dernière encore, certains parents disaient... lorsque des Canadiens présentaient leur système, oui, mais nous, on n'arrive même pas à entrer à l'école. Hein, là où, effectivement, des expériences collaboratives ont été présentées, c'était le New Brunswick, mais également dans d'autres pays, certains parents disaient que, oui, ben, eux, ils n'arrivaient pas à entrer en contact avec l'enseignant ou avec l'école, et que par là même, la collaboration était quelque chose d'extrêmement complexe. Quoi.
Je suis responsable du master français formé et intégré par la langue, qui s'adresse aux formateurs qui accueillent les migrants, et par ailleurs formatrice de professeurs des écoles. Et j'aurais du mal à poser ma question, et peut-être c'est parce que le problème est confus pour moi, mais quelle est la lecture que vous faites dans l'articulation et la solution dialectique entre l'État républicain centralisé français Et cette délégation que vous décrivez, qui est une délégation finalement informelle et non officielle, première question donc, de citoyenneté à l'échelle micro, on va dire. Et puis deuxième question, même chose dialectique entre la centralisation linguistique dont on a revu une illustration récemment et le besoin particulier qui peut être celui de l'allophone, mais aussi bien de la langue régionale ou de X culture et langue mineure, puisque ça fait deux fois qu'on a ce sujet qui revient. Merci.
Alors, c'est là que la notion d'inclusion scolaire retenue par la loi de 2013 est intéressante. Parce qu'on est peut-être dans une acceptation fantôme, si vous voulez, hein, parce que ce dont on parle, finalement, c'est pas aussi neuf que ça. D'ailleurs, si on fait un petit retour sur l'histoire, on se rend compte que les thématiques actuelles sont assez voisines de celles de la fin du 19e siècle, voire du début du 20e siècle, autour de l'institutionnalisation de l'institution scolaire. Et que, par là même, la question qui se pose est effectivement de savoir en quoi l'institution scolaire en France est-elle conduite à opérer un certain nombre de mutations ou non ? Hein, je crois que la question de fond, elle est là. C'est-à-dire que quand on analyse, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place et qui se mettent en place depuis bon les circulaires de 82 à propos des élèves présentant une déficience et la loi d'orientation de 89. Mais ces choses se mettent en place, mais se mettent en place silencieusement. Elles se mettent en place silencieusement de telle manière que la question du sens ne peut pas être pensée. Je veux dire, si on prend ce qui se joue dans d'autres pays, ça s'est joué autour de la municipalisation. Hein. Que ce soit le Canada ou que ce soit le Royaume-Uni ou que ce soit les pays scandinaves, les politiques inclusives ont délégué aux municipalités un certain nombre de responsabilités, donc à l'échelon local. Et en déléguant aux municipalités un certain nombre de responsabilités, on a réorganisé ce qui était de l'ordre de l'action publique autour, de contextes territoriaux. Contextes territoriaux qui, d'une certaine manière, ont contribué à ce que les établissements scolaires puissent se mettre en réseau. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la municipalisation a contribué à renforcer la mise en réseau des établissements. Mise en réseau des établissements, ce qui a créé un maillage au sein de territoires donnés où il a été possible de penser quelque chose qui est de l'ordre de la communauté de sort d'une certaine manière et aussi du transfert de compétences. Et c'est vrai que la France occupe une position tout à fait particulière à ce niveau-là, c'est-à-dire que rares sont les pays qui sont aussi centralisés que la France. Rares sont les pays où la question de la diversité est revendiquée. C'est-à-dire qu'en France, il y a un double langage qui est extrêmement important à avoir à l'esprit, au sens où l'on revendique un certain nombre de principes, mais en déléguant la mise en œuvre de ces principes aux acteurs, d'une certaine manière, sans fournir aux acteurs les éléments de sens leur permettant de le faire. Et c'est là, me semble-t-il, que les ESPE peuvent avoir un rôle important. Les ESPE peuvent avoir un rôle important en insistant sur le poids des établissements et la reconfiguration de la fonction de chef d'établissement qui est quand même relativement conséquente en la matière, mais aussi me semble-t-il en inscrivant dans des contextes locaux ou dans des contextes territoriaux un certain nombre de dynamiques. Je veux dire, une loi est toujours en retard d'une guerre. C'est-à-dire que la loi du 11 février 2005, qui est indissociable d'ailleurs de la loi du 23 avril 2005, hein, je veux dire, on parle toujours de la loi du 11 février, on oublie celle du 23 avril, parce que c'est la loi du 23 avril qui inclut les élèves surdoués parmi les élèves à besoins éducatifs particuliers, et c'est la loi du 23 avril qui permet, à travers le socle de compétences, un certain nombre d'innovations. Donc, mais là aussi, il y a des éléments qui me paraissent importants à considérer. Donc je crois que une loi ne fait que concrétiser un certain nombre d'innovations. Et c'est là que les ESPE peuvent avoir un rôle moteur. Peuvent avoir un rôle moteur en termes de formation, en termes de recherche, mais aussi en termes d'innovation. Et un des enjeux, me semble-t-il, consiste à ne pas résumer l'ouverture à la diversité à la compensation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on parle d'adaptation des pratiques, on parle compensation. Compensation par l'intermédiaire d'un AVS, compensation par l'intermédiaire de RAZ, etc., etc., au détriment de tout ce qui renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'aménagement pédagogique. C'est-à-dire qu'en associant ou qu'en confondant compensation et accessibilité, on s'interdit de penser la manière dont on fait environnement, c'est-à-dire la manière dont on construit les conditions permettant de penser non pas l'accessibilité, mais l'accessibilisation de l'environnement scolaire. Hein. Je veux dire, la notion d'accessibilité est bien trop statique pour prendre en considération toutes les dimensions processuelles à travers lesquelles se concrétise quelque chose qui est de l'ordre de la prise en considération de la particularité de l'élève. Donc, et c'est à ce titre-là, effectivement, on est confronté à cette injonction paradoxale. Mais en même temps, je pense que les initiatives existantes à l'international, et je crois que l'ouverture à l'international est importante de ce point de vue-là, quoi. Pour se rendre compte que ce qui apparaît impossible en France ne l'est pas ailleurs, et que là où dans certains pays les élèves allophones ne sont absolument pas considérés, dans d'autres pays ils sont considérés comme handicapés. Hein, donc avec un projet personnalisé de scolarisation, etc. Et puis, dans certains pays, vous avez une surreprésentation des élèves allophones parmi les handicapés, là où les données existent, alors que dans d'autres pays, on peut être à besoin éducatif particulier sans être stigmatisé. Donc, je crois qu'il y a cette dimension-là, moi, qui me paraît extrêmement importante, c'est-à-dire que on parlait d'autres formes de citoyenneté, mais c'est aussi d'autres conceptions de la démocratie. D'autres conceptions de la démocratie dont il me paraît important de se saisir, mais ça suppose de s'interroger sur l'effet capacitant des pratiques, l'effet capacitant des soutiens, et d'avoir à l'esprit que ce qui se joue dans l'implication des familles, ce qui se joue dans la mobilisation des élèves, c'est aussi une mise en compétence des intéressés, autrement que sur le plan proprement, sur le plan des savoirs scolaires à proprement parler, mais prendre aussi en considération d'autres dimensions.